en vacances. En tout cas, que vous avez pu profiter des beaux jours ici à Paris. On a eu des journées chaudes, très chaudes. En tout cas, nous, on revient de lune de miel avec Chloé depuis le début août. Là, on a bien voyagé. On a les têtes et les cœurs bien remplis de souvenirs et d'émotions. Et justement, cet été, on a eu la chance de pouvoir faire un voyage en famille. Et c'est un peu le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Un voyage en famille. Vous voyez sur les photos, c'est ma famille, hein, mes parents, mes frères et sœurs, et puis la pièce rapportée, la plus une, Chloé, qui est là aussi. Et c'était vraiment une expérience qu'on n'a pas eu l'occasion de faire souvent, parce que tout le monde est grand, tout le monde est adulte, tout le monde a son travail, et puis là on a pris 3 semaines de vacances en Chine, c'était la première fois pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Et puis donc tout le monde fait ses valises, ils étaient à 4 heures du matin alignés derrière les valises, et puis on prend l'avion, on part pour... c'était le lundi juste après le samedi du mariage, donc c'était un peu la course, on n'était pas très bien réveillés, on a dormi dans l'avion. Pour Yael, ma petite sœur, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion, donc beaucoup d'excitation. Bref, un voyage en famille, avec tout ce que ça peut signifier, les joies, le plaisir d'être ensemble, et c'était vraiment... original, particulier de se retrouver dans l'avion et de voir la rangée avec les 7 personnes, tous avec leur couette, c'est pas des couettes, c'est des petites des couvertures, merci, des couvertures de Ryanair et puis le bandeau sur les yeux et voilà, c'était un peu comme à la maison dans l'avion. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas juste pour raconter mes vacances, mais c'est parce que il y a une chose que j'ai appris, je pense, pendant ces 2 années assis à Saint-Maur, et que j'aimerais vous partager, c'est que l'aventure de la foi, c'est un peu comme un grand voyage en famille. On part ensemble, on voyage ensemble, et on a une destination commune. Et c'est la dernière prédication que je vais donner ici, dans ce contexte. Bon, merci. Merci, David. Après, si vous voulez me réinviter, si vous voulez encore de moi, peut-être que je pourrais revenir, hein. Et dans ce cadre, j'aimerais vous partager aussi, au travers de ce texte, les choses que j'ai pu apprendre, recevoir pendant ces 2 années avec vous, et aussi vous partager ma reconnaissance et vous dire merci pour ces 2 années. Et ce texte de l'Évangile de Marc, que David a lu, résume bien plusieurs points que j'ai appris pendant cette année, et notamment... Voilà, le fait qu'on fait on fait un grand voyage en famille, et au travers de ça, trois points importants. Premièrement, que nous avons quitté toutes nos attaches. Deuxièmement, que nous avons reçu une nouvelle famille, que nous accueillons une nouvelle famille. Et troisièmement, que nous devons servir avec simplicité. Quitter, accueillir, servir, 3 verbes, 3 choses qui peuvent être difficiles, parce que ce n'est pas forcément ce que notre nature nous pousse à faire, mais c'est 3 choses que nous avons fait et que nous devons encore faire. Premièrement, quitter toutes nos attaches. On voit alors Pierre qui vient devant Jésus. Il vient de voir le jeune homme riche qui n'a pas réussi à passer le test. Jésus lui a dit, viens, vends tous tes biens, suis-moi. Il n'a pas réussi. Et Pierre lui dit, alors, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tout quitter, c'est ce que les disciples ont fait littéralement. On se rappelle de cette scène où Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Pierre et son frère dans des bateaux, c'était des pêcheurs, et il leur dit, suivez-moi, et je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchèrent leur filet et le suivirent. On les imagine, juste un vêtement sur eux, pas un instant d'hésitation, et ils ont suivi Jésus. Si je vous dis ce matin, suis-moi, j'ai ton billet d'avion, et on va tout de suite à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'autre bout du monde, pour un aller simple. Tu ne passes pas à la maison faire tes valises, tu viens juste avec moi, avec ton billet d'avion. Un Uber nous attend devant l'église, direction Charles de Gaulle, aller direct, simple, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu ne sais pas quand tu reviendras. Les disciples l'ont fait. Ils ont tout abandonné. Et ils ont fait ce que le jeune homme riche n'a pas pu faire. C'est ce que les disciples ont fait. Et c'est aussi, deuxièmement, ce que vous avez fait. Peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience, mais vous l'avez fait aussi. Nous avons dit, et nous pouvons dire avec Pierre, Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous me direz, attends un instant, Clément, moi, je n'ai pas tout quitté. Si tu vois, je suis venu avec une belle voiture, là. J'ai une belle maison, j'ai un bon travail, je n'ai pas vraiment tout quitté physiquement. Mais si vous l'avez fait, alors, certes pas matériellement, mais c'est avant tout quoi ? Une disposition de cœur, ça vient de notre cœur. On est comme les disciples, on est monté dans l'avion et nous avons accepté de ne pas prendre de valise avec nous. Nous avons accepté de ne pas prendre de valise avec nous. Merci Denis. Alors oui, à certains, peut-être à vous ce matin, peut-être que Dieu vous le demandera dans l'avenir, à certains, Dieu demande de vraiment tout quitter littéralement, d'aller à l'autre bout du monde. Il a demandé aux disciples, il a demandé au jeune homme riche, il le demande à certains missionnaires encore aujourd'hui. Mais à d'autres, il ne le demande pas, comme à un autre riche dans la Bible. Je ne sais pas si vous pensez à un autre riche dans la Bible qui n'avait pas vraiment tout quitté, mais matériellement, mais qui avait tout quitté pour suivre Jésus. Joseph d'Arimathée, il avait encore ses biens, il avait encore son tombeau à lui personnel. Et lorsque Jésus est mort, il est venu demander à Pilate de prendre le corps de Jésus pour le mettre dans son propre tombeau au milieu des riches. Donc Joseph d'Arimathée, visiblement, n'avait pas tout quitté matériellement, mais dans son cœur, il était bien disciple de Jésus. D'autres personnes sont donc pas forcément appelées à tout quitter matériellement, mais dans leur cœur, la disposition est la même. J'ai tout quitté. Si tu me le demandes aujourd'hui, Seigneur Jésus, je suis prêt à vendre ma maison. Je suis prêt à acheter mes billets et aller à l'autre bout du monde. C'est le cri, c'est le credo de chaque chrétien. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que tu as dit quand tu t'es fait baptiser le premier jour. Je quitte tout. Et je te suis. C'est la disposition de notre cœur, profondément. Et ainsi, on peut marcher à la suite de Jésus, un peu léger comme l'air, juste avec notre vêtement. Dans notre cœur, en tout cas. C'est ce vers quoi on devrait tendre. Être léger comme l'air. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quitté. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Quand Jésus demande au jeune homme riche, « Vends tous tes biens et suis-moi », qu'est-ce qu'il fait ? Il lui montre dans son cœur les choses auxquelles il est le plus agrippé. Et c'est un déchirement pour lui. La Bible nous dit qu'il était dans une grande tristesse parce qu'il ne pouvait pas laisser tout ça loin de lui. C'est ce que les disciples ont fait, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous devons continuer à faire. Les disciples, quand ils ont commencé à suivre Jésus, quand il leur a dit « Venez, suis-moi », je ne suis pas sûr qu'ils... Non, c'est même sûr, ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils signaient. Ils n'avaient pas idée, ils ne pensaient pas toutes les choses qu'ils devraient quitter par la suite. Ils ne savaient pas que Jésus finirait sur une croix romaine 3 ans après. Ils ne savaient pas qu'eux finiraient martyrs certainement à la fin de leur vie. La majorité d'eux ont fini martyrs. Ils ne savaient pas les persécutions auxquelles ils s'attendaient. Ils savaient qu'ils lâchaient des choses, qu'ils quittaient des choses. Mais ils n'avaient pas idée complètement de tout ce qu'ils lâchaient, de tout ce qu'ils étaient appelés à quitter. Et nous aussi, c'est pareil. Quand on commence notre vie chrétienne, on le fait avec plein de foi, mais on n'a pas totalement conscience. Et c'est au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Je ne vous apprends rien. Qu'on réalise qu'il y a des choses nouvelles qu'on doit apprendre à quitter. Et il y a une chose que j'ai apprise pendant cette deuxième année de stage. Je vous parlerai plus tard d'une autre leçon de la première année de stage. La deuxième chose que j'ai apprise pendant cette deuxième année de stage, c'est notamment quelque chose que je n'avais pas quitté et auquel je n'avais pas forcément pensé. Quand j'ai commencé le stage, je m'attendais à apprendre des compétences, apprendre à bien prêcher, apprendre à faire une visite, apprendre à écouter, apprendre à organiser un week-end de rentrée, à organiser un week-end de groupe de jeunes. Je m'attendais à apprendre des compétences pratiques, et c'est vrai que c'est des choses que j'ai apprises. Mais ce n'est pas les choses les plus importantes que Dieu m'a apprises et que Dieu a essayé de m'enseigner, et les choses les plus importantes où Dieu a travaillé, c'est vraiment dans mon cœur, dans mon caractère. Il m'a montré des choses qui n'étaient pas bonnes, des choses que je devais quitter. Et la deuxième année, la chose que je devais apprendre à quitter, c'était l'approbation des hommes. L'approbation de votre approbation. De dire, en fait, si je prépare quelque chose, tout ce que je fais est motivé par ce que les gens vont penser, ma réputation, mon honneur. Alors, ce n'est pas forcément des choses matérielles que nous apprenons à devoir quitter, c'est les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Ça peut être une image, une réputation, un confort émotionnel, une sécurité, Mais à la suite de Christ, on doit être prêt à lâcher tout ça, au même titre qu'une voiture, qu'une maison, le confort et la sécurité. Est-ce que notre credo, ce matin, en tant que chrétien, c'est Jésus? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et j'aimerais vous encourager ce matin encore à quitter, à suivre ce credo que nous avons fait. Peut-être que ce matin, le Seigneur te rappelle que tu dois quitter quelque chose, qu'il y a quelque chose auquel tu es attaché, un peu comme une moule à son rocher, et que tu n'es pas prêt à te détacher. Et ça, c'est vraiment comme un déchirement. Tu dis non, ça, je ne peux pas. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de trop. Mais notre credo, quand nous avons suivi le Seigneur, Jésus, je quitte tout pour te suivre. Et la raison pour laquelle nous suivons Jésus, c'est parce que lui a tout quitté. Il a quitté, oui, certes, Marie et Joseph, ses parents, sont, mais il a surtout quitté le ciel, son Père céleste, pour venir. Et c'est pour ça que nous, disciples de Jésus, nous quittons tout à sa suite. Nous montons, nous prenons le billet d'avion, pas de valise, allez direct. Alors, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je termine cette partie tout quitté par ce cri d'un autre disciple, Paul, qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Mais ce n'est pas seulement un appel à quitter, c'est également un appel à recevoir, un appel à accueillir une nouvelle famille. Jésus répondit à Pierre quand il lui dit « Nous avons tout quitté ». Qu'est-ce que Jésus lui répond ? « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Nous avons tout quitté et nous avons reçu. Les disciples ont reçu une nouvelle famille. On peut les imaginer à table, en train de manger ensemble, en train de dormir ensemble, à l'extérieur, dans la maison. C'était une famille. Ils avaient quitté leur père et mère, mais ils avaient reçu et retrouvé des frères. Ils étaient une bande de frères. Et Jésus les appelle ses frères. Ils faisaient le voyage en famille. Ils suivaient la même personne. Ils ont traversé les mêmes turbulences. Il y a les turbulences, vous savez, hein, quand on fait un voyage en famille, il y a des turbulences qu'on ne peut pas éviter, qui sont normales. Il y a les joies, les rires, mais aussi les pleurs, les grincements de dents. Quand on doit faire un voyage en famille, souvent, il y a des petites turbulences, mais c'est normal. Et puis, il y a les turbulences inattendues, les persécutions, les choses qui viennent de l'extérieur. Ils ont traversé tout ça. Et c'est des choses qui ne s'imaginaient pas. Et ils avaient également la même destination, la vie éternelle. Une famille avec Jésus en voyage. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes également une famille en voyage. Nous avons tout quitté et nous nous sommes retrouvés dans le même avion, avec Jésus comme notre pilote, avec, en ayant tout laissé en arrière et avec un billet aller simple vers le ciel. Et s'il y a une chose que j'ai vraiment réalisée pendant ces 2 années, c'est que cette parole de Jésus est bien vraie. Nous recevons au centuple famille, maison et biens. Je me souviens de mon premier voyage en Chine. Je suis allé seul à Pékin, j'ai pris mon billet, je voulais apprendre le chinois. Et au bout de 3 jours, alors que j'étais dans la cour de la faculté où j'apprenais le chinois, totalement par la grâce de Dieu, j'ai rencontré trois frères chinois qui étaient en train de lire la Bible ensemble dans le parc. Et je me suis approché, je les ai entendus qui disaient « Amen, Alléluia ». C'était en 2017, il n'y avait pas trop de contrôle à ce moment-là. Et je me suis rapproché, ils avaient le gros livre sur leurs genoux, j'avais ma petite Bible, je leur ai montré, on a réalisé qu'on était frères, qu'on était chrétiens. Et c'était vraiment la main de Dieu, c'était incroyable. Et à partir de ce moment-là, j'avais retrouvé une famille en Chine. Je parlais pas très bien chinois. J'avais appris chinois que depuis 9 mois, donc je parlais pas très bien le chinois. Mais malgré la barrière de la langue, ils m'ont accueilli, ils m'ont invité dans leur groupe de maison. On a mangé ensemble, on était faire du sport ensemble. Ils me retrouvaient pendant la semaine pour faire des activités. J'ai habité chez eux, ils m'ont offert une chambre. À l'autre bout de la planète, j'avais trouvé une famille. Et puis bon, là, c'est nous qui sommes en train de partager un bon repas chinois. C'est moi avec un peu plus de cheveux. Une famille en Chine. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Des inconnus, et puis voilà, une famille en Chine. Je ne sais pas si on réalise là, ce que fait Jésus. Comment il crée des familles à partir de personnes qui sont inconnues et qui ne partagent pas du tout la même culture. C'est juste incroyable. Et c'était la même chose ici. J'ai passé une année dans la maison d'une sœur de l'église, Annie. J'ai trouvé une maison. J'ai reçu une maison, si j'utilise le terme biblique. J'ai reçu une maison. J'ai reçu une maman. J'ai reçu une sœur qui m'a partagé sa chambre. Chloé, c'est la même chose. Elle a reçu une maison, un père, une mère, deux frères. Et puis, je peux dire qu'avec le papa Thaï à la maison, ils discutaient bien. En cantonais, ils étaient contents. On a reçu des repas, on a été invités à manger par beaucoup d'entre vous. Et puis, on a reçu de l'aide pour préparer un mariage qu'on n'attendrait pas de quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille. Je ne sais pas, vous avez vu, la majorité d'entre vous étaient au mariage. Vous avez vu, je pense, comment ma famille de sang s'est impliquée. Ils étaient vraiment impliqués. Mais l'autre famille qui était vraiment impliquée, c'est la famille de l'Église. Et le niveau d'implication était le même. Il était grand, il était élevé. Et on a vu avec Chloé l'amour familial qu'il y a en Christ au travers de tout ça. Donc oui, c'est incroyable, c'est ce que fait Dieu, et c'est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Une unité et une famille incroyables. Donc merci pour votre amour. Et nous recevons également des persécutions. Au programme du voyage, de ce voyage familial, Jésus dit « avec des persécutions ». Alors il y avait les persécutions comme pour les disciples, quelque part les turbulences de la vie normale en famille, parfois ça frotte un peu, parfois les relations et des choses qui ne se passent pas exactement comme on le voudrait. Et puis il y a les persécutions vraiment inattendues, les choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, et je pense, et c'est, non, c'est pas je pense, et c'est sûr, pour des frères, ils sont en train de passer le voyage dans des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas, et j'ai juste vu... J'ai juste vu ce mail dans ma boîte mail la semaine dernière de 7 frères qui sont en Érythrée. Ce sont des chrétiens et comme des centaines d'autres du pays, ça fait 20 ans qu'ils sont emprisonnés pour leur foi. Ils n'ont pas le droit de visite, ils n'ont pas le droit d'avoir de jugement, ils n'ont pas le droit d'avoir d'appel. Leur seul crime, c'est d'avoir exprimé leur foi. Et c'est des frères, ils ont le même lien qu'on partage ensemble. Mais vraiment, la persécution pour eux, c'est une réalité. Et ils partagent, ils font le voyage avec nous, avec Christ, mais dans une cellule de prison. Et donc, c'est aussi des persécutions, et on ne s'y attend pas, ça peut survenir. Apparemment, en France, aujourd'hui, on n'est pas trop menacé, merci Seigneur, on peut le louer pour ça, mais qui sait demain ce qui peut se passer. Et c'est comme pour les disciples, des choses qui nous surprennent et auxquelles on ne s'attend pas forcément pour le lendemain. Donc, pensons-y et prions pour eux, parce que ce sont des frères. Et en tant que famille, nous avons aussi la même destination. C'est ça qui nous unit. C'est qu'on va dans la même destination, Jésus dit, et dans la vie éternelle. Et c'est ce qui fait que notre lien est même plus fort que des liens de sang, que notre famille terrestre. C'est fort. On utilise souvent l'expression « frères et sœurs ». Mais l'expression, comme tellement on l'utilise, elle perd un peu de son sens. Mais c'est vraiment quelque chose de fort. C'est un lien qui est même plus fort que le lien terrestre, parce que le lien terrestre, il est limité. Il ne va pas dépasser un certain nombre d'années. Le lien céleste, il durera éternellement. C'est un lien éternel, la vie éternelle avec Christ. Et alors que Jésus était en train de partager, que sa mère et ses frères viennent le chercher, qu'est-ce qu'il va répondre à ceux qui lui disent « Ta mère et tes frères sont dehors, ils t'attendent ?» Il a, je lis verset 34, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, ça n'annule pas nos responsabilités terrestres vis-à-vis de notre famille de sang, mais ce lien-là est plus profond encore, parce qu'il est éternel. Et ce lien est plus profond parce que ce n'est pas un lien de sang terrestre, mais c'est un lien qui est fait par le sang de Jésus-Christ, qui nous unit aujourd'hui jusque dans l'éternité. Alors, les disciples ont reçu une nouvelle famille, nous avons reçu une nouvelle famille, vous avez reçu une nouvelle famille, et j'aimerais nous encourager à accueillir cette nouvelle famille ensemble, à nous accueillir les uns les autres. J'ai discuté avec un frère cette semaine, il me disait, ce dont on a besoin, c'est vraiment qu'on puisse s'accueillir, créer du relationnel entre nous. On peut venir juste le dimanche et pas créer cette relation. On a vu au cours de ces deux années qu'au travers de certains événements, épreuves, ça unit parce qu'on se sacrifie pour les uns et pour les autres et on crée ces relations. Mais ça demande aussi une implication volontaire. Et on a vu aussi pendant ces deux années des personnes qui avaient une liste des personnes de l'Église et qui les invitaient à table, qui invitaient les frères et sœurs à venir manger à la maison, qui ouvraient leur maison. C'est des choses qu'on peut faire et nous, on a été aussi au bénéfice de ça, on a été invités à manger par beaucoup d'entre vous. Et je vous encourage à accueillir cette famille que nous avons en Christ, cette famille dont les liens sont éternels. Et j'aimerais particulièrement parler à deux types de personnes, aux introvertis et aux extravertis. Je pense que dans l'Église, il y a des introvertis et des extravertis. Je suis de base un introverti. Peut-être que ça se dirait pas comme ça. Ça se dirait pas comme ça, mais dans ma jeunesse, les gens disaient qu'il fallait mes parents disaient qu'il fallait me tirer les vers de nez pour avoir des informations sur ce que j'avais vécu pendant la journée. Et j'aimerais vous encourager, introverti, dans cette optique de relation, à dire une phrase de plus. Dire une phrase de plus. Parfois, on cherche vraiment ce qui est simple, et c'est beaucoup plus confortable de juste dire une phrase, et peut-être pas de dire une autre phrase. Mais en y réfléchissant, et en se forçant, ça demande un effort. On peut dire une phrase de plus, et une phrase de plus. Et avec de l'entraînement, ça devient de plus en plus naturel. Et je peux vous dire que je viens de loin, et je ne suis pas encore arrivé, hein, vous demanderez à Chloé, au niveau communication, j'ai encore des progrès à faire. Mais on peut vraiment progresser. En étant intentionnel, on peut progresser. Et aux extravertis, parfois on peut parler beaucoup, 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 beaucoup. J'aimerais vous encourager à parler, mais aussi à écouter, à poser des questions. Surtout à ces personnes qui, peut-être, sont un peu introverties et n'arrivent pas à beaucoup parler. Des fois, on a dit, ça demande quand même un effort d'aller vers elles parce qu'elles ne parlent pas beaucoup. Mais de les aimer, ça veut dire de faire l'effort et puis de leur poser des questions, d'anticiper les questions, de les préparer, de préparer un carnet avec être armé de questions et puis de les aider à parler. Et si les introvertis et les extravertis font cet effort-là, on peut s'accueillir et puis le voyage en famille va se passer de mieux en mieux. Et c'est vraiment ce que j'aimerais aussi vous laisser. Accueillons-nous en famille parce que le voyage n'est pas terminé encore. Moi, j'ai fait 2 ans ici avec vous, mais on a encore quelques années hein, jusqu'à ce qu'on puisse être arrivé à destination. Et puis, quand on sera arrivé à destination, ce sera encore mieux. Nous avons tout quitté. Nous avons suivi Jésus et nous avons reçu une nouvelle famille. Et c'est merveilleux. Mais Jésus lance enfin, troisièmement, un avertissement à Pierre après tout ça. Et l'avertissement, c'est de servir avec simplicité, de servir avec humilité. Quitter, accueillir, servir. Servir avec simplicité. Il dit, et ça a l'air de sortir un peu de nulle part, « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Littéralement, les derniers premiers et les premiers derniers. L'avertissement est premièrement pour les disciples. Cette phrase, elle apparaît plusieurs fois dans les évangiles, dans des contextes différents, notamment deux, mais peut-être que Jésus l'avait dit à plusieurs reprises. Mais dans ce contexte-là, c'est un avertissement à ne pas prendre la grosse tête, à ne pas se mettre au centre et à vouloir se mettre en premier. Et il est valable pour les disciples, comme pour nous qui voyageons à sa suite. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a une petite histoire qui explique justement ce dicton que Jésus dit. Dans l'histoire, c'est une parabole. Un maître de vigne va dans le village, sur la place, et le matin, voit des gens qui sont sans travail et il les invite à venir pour une pièce d'argent à travailler dans sa vigne. Il ressort à 12 heures, voit des gens aussi qui sont sans travail, les invite à venir travailler dans sa vigne. Et c'est comme ça, à 9h, 12h, 17h, 18h. Et à la fin, il les invite pour les payer. Et voici ce qu'il se passe au verset 10 dans Matthieu 16. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus qu'une pièce d'argent, parce qu'il a commencé par les derniers, il leur a donné une pièce d'argent, donc nous, on va peut-être recevoir plus. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire. Ils disaient, ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue une journée entière de travail sous un soleil brûlant. Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui seront les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que nous enseigne cette parabole? Alors que Pierre vient de dire, nous avons tout quitté pour toi, Jésus vient de dire, tu vas recevoir au centuple famille et terre, et des persécutions et la vie éternelle. Et maintenant, cette phrase, les derniers seront les premiers seront les derniers. Ce qui veut dire, c'est très simple, c'est qu'on va être surpris. On va être surpris au ciel. Dieu ne récompensera pas les hommes à partir des mêmes standards que nous, que les hommes. Les ouvriers dans cette histoire, dans cette parabole, pensent quelque chose et sont très surpris à la fin de voir que le Seigneur a fait autre chose que ce qu'ils pensaient. Et voici un peu ce que dit Jésus à Pierre en substance. C'est bien, tu as sacrifié tout ce que tu avais, c'est honorable, ça va être récompensé, tu vas avoir beaucoup de choses au centuple et la vie éternelle. Mais attention Pierre, attention de ne pas prendre la grosse tête par rapport à ça. Attention de ne pas chercher à être le premier, parce que cela pourra faire de toi au final le dernier aux yeux de Dieu. Ton sacrifice pourrait être complètement gâché parce que tu te penses le premier. Et on voit ici une vérité biblique centrale, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à nos cœurs. Et aux yeux des hommes, quelqu'un peut être incroyablement bon, généreux, succès, plein de succès, et aux yeux de Dieu, ce sera le dernier. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on va être surpris. On va voir les disciples vont voir certaines personnes dans certaines positions au ciel et vont dire « Mais non, lui, il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû soit être plus haut, soit plus bas. » Donc l'avertissement est pour les disciples et l'avertissement est aussi pour nous. Il y a une chose que Philippe Philippe m'a dit plusieurs fois pendant cette année, pendant ces deux années de stage. Il m'a dit « N'entre pas dans le star system. » Dans le star system. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans le monde évangélique des personnes qui, petit à petit, deviennent connues, grimpent les échelons, on voit leur nom sur les affiches, on commence à voir leur nom sur les livres, et les pasteurs ou les serviteurs, ou même les chrétiens ou les musiciens, peuvent être tentés de vouloir rentrer dans ce jeu-là, de savoir, ok, moi aussi j'ai envie de me faire quelque part un petit nom dans le monde évangélique, à un moment donné ou à un autre, et d'être le premier, de réussir, d'avoir du succès. Et il m'a mis en garde, il m'a dit Clément, attention surtout, ça va vite, n'entre pas dans le star system. J'ai discuté également avec un frère dans la semaine et on se rappelait à quel point c'est facile pour nous de juger du succès des choses par leur apparence. On voit une grande église et on se dit cette église-là c'est sûr, elle a quelque chose que nous on n'a pas. Ils ont compris quelque chose que nous on n'a pas compris. On voit un pasteur ou un serviteur ou un écrivain qui a du succès, on se dit, lui, il a certainement un niveau spirituel bien plus important que le mien. On voit peut-être telle famille qui apparemment vit une harmonie en apparence familiale qui nous surprend. On se dit, ah, ils ont certainement compris les clés spirituelles pour un mariage ou une famille épanouie. Et on regarde aux apparences. On est attiré par le succès, attiré par les premiers. On veut aussi être les premiers dans ces niveaux-là. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et Dieu regarde au cœur. Jésus nous avertit ne pas rentrer dans ce jeu-là, ne pas rentrer dans chercher à être le premier. Et c'est ce que je vous, c'est la deuxième leçon que j'ai apprise pendant ces deux années, c'est la leçon de la première année, ne pas chercher la réussite à tout prix, mais la fidélité. Ça faisait, avant d'arriver en stage, des années que j'avais cet appel, que je voulais servir dans l'Église. Et il y a forcément des idées qui sont là en place, de dire, on va arriver, on va prêcher, on va prier, on va partager, et puis il va se passer des choses, des gens vont être bénis, il va y avoir de la réussite, quelque part, on va avoir des fruits. Et quand ça ne se passe pas autant que ce qu'on avait imaginé, ou les rêves qu'on pouvait avoir, là, quelque part, ça a mis en lumière des choses dans mon cœur. C'était que j'étais peut-être plus attiré par le succès et la réussite que par le service humble. Attiré par le succès et la réussite que l'amour de Dieu et de mon prochain. C'est une chose qui m'a travaillé profondément pendant ma première année, merci Seigneur, et que j'ai appris pendant cette année de stage. Ne pas chercher la réussite à tout prix, mais la fidélité. Alors, j'aimerais nous encourager. Un avertissement pour les disciples, un avertissement pour nous, à ne pas avoir ce même état d'esprit que le monde, mais au contraire, à maintenir et encourager, pendant ce voyage, un état d'esprit de service. De service les uns pour les autres. Un état d'esprit d'humilité, de simplicité. C'est exactement la même chose que Jésus disait à ses disciples. Les disciples avaient un peu un désir chronique d'être le premier. Dans le chapitre 9 de Marc, on les voit qui sont en train de discuter en chemin pour qui est le premier. Et puis Jésus, quand il leur demande de quoi vous discutez en chemin, ils disent rien, ils ont un peu honte. Puis il leur dit, le premier, ce sera celui qui sera serviteur. Et dans, juste après cette histoire, c'est la même chose. C'est Jean et Jacques qui demandent à Jésus, est-ce qu'on peut on pourrait être assis à côté de toi, à ta droite et à ta gauche, dans le royaume? Et puis les autres sont outrés, etc. Et Jésus leur dit, si vous voulez être les premiers, vous devrez être les derniers. Si quelqu'un veut être le premier, dit-il, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors, on fait ce voyage en famille, on a tout quitté. On a reçu cette famille. Et dans cette famille, un peu dans l'avion, là, on peut avoir le désir de passer en première classe. Et c'est sur ça que j'aimerais conclure. Essayons d'adopter un état d'esprit d'une grande famille en voyage et pas un état d'esprit première classe. J'aimerais être en première classe. Un état d'esprit serviteur et pas un état d'esprit première classe. Quand on voyage en avion, vous savez, il y a deux classes. Classe économique, on est, un peu serré, on rentre d'oignon. C'est souvent bien animé, un peu chaleureux. Il peut y avoir un peu de bruit, surtout si on se retrouve avec un bébé à côté, ou si on se retrouve entre deux rugbymans qui sont en train de ronfler. Ça peut être animé. Et puis, il y a la première classe. Alors, on voit des photos sur Internet de première classe. Là où, normalement, il y a trois chaises, il y a un siège. Et puis, après, il y a un mini-bar. Enfin, c'est vraiment... je ne connais pas. Je n'ai pas eu cette chance. Mais il y a l'esprit première classe. Et quelque part, dans notre société ou dans nos cœurs, on a toujours cette... J'aimerais bien quand même essayer la première classe. J'aimerais bien passer en première classe. J'aimerais bien. Il y en a peut-être qui ont connu la première classe dans la salle. J'ai des gens qui rigolent. On aimerait bien réussir. On aimerait bien être le premier, comme les disciples. Sauf que dans ce voyage familial en route vers le ciel, il n'y a pas de première classe. Je crois qu'il n'y a même pas de classe économique. On est tous des stewards, on est tous des hôtesses de l'air, et on est au service des uns et des autres. Et c'est l'état d'esprit que j'ai observé pendant ces deux années. Des gens qui ont quitté, des gens qui ont reçu, des gens qui se sont mis au service des uns et des autres. C'est l'état d'esprit qui m'encourage et qui me donne envie de faire la même chose dans la suite de mon ministère. Et c'est un état d'esprit que j'aimerais vous encourager à faire fructifier, à faire grandir entre vous. J'ai réalisé après deux semaines de mariage que le héros de l'histoire dans la famille, ce n'est pas celui qui a bien parlé au dîner avec des amis, mais c'est celui qui a tenu la barre quand il a fallu faire les tâches ménagères. Là, c'est le héros de la famille. Et dans notre famille, dans ce voyage en famille, c'est la même chose. Se servir les uns les autres, être attentif aux besoins. Et on va être surpris de voir des gens dans le ciel qui seront top position Et on n'aura pas vu qu'en fait, ils venaient dans la semaine pour faire le ménage quand personne ne le savait. Ou alors, ils bouchaient les trous sans que personne ne demande rien parce qu'ils voyaient que là, il y avait des besoins. Alors, je conclus là-dessus. Frère, sœur, père, mère, nous avons tout quitté pour suivre Jésus. Et on est réunis dans cette grande famille autour de lui pour un grand voyage. Et notre credo pendant le voyage, c'est le dernier premier et le premier dernier. Le dernier premier et le premier dernier, esprit de service. Parce que Jésus a fait la même chose. Je termine par la prière. Merci Seigneur, parce que oui, c'est un miracle. On a fait ce que le jeune homme riche n'a pas pu faire.